Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Et on continue notre session d'information Europe Soir jusqu'à 20h avec Ça fait débat, votre débat politique de 18h30 à 19h avec Agnès Evren. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole des Républicains. Bonsoir à Philippe Doucet.
Bonsoir.
Porte-parole du Parti Socialiste. On vient d'en parler avec Pierre Licia. Le cas Damien Abad, à peine formé, le ministre des Solidarités se retrouve accusé via un article de Mediapart de violence sexuelle. Agnès Evren, question simple, est-ce que vous connaissez bien Damien Abad?
Oui, je le connais bien. On a
vous
fait d'ailleurs
choquée.
La campagne de Valérie Pécresse, ouais. Ensemble, mais j'ai découvert, comme vous tous, l'article de Mediapart, que j'ignorais complètement.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, je trouve ça violent, tout simplement. Je trouve ça triste. Et je pense qu'il faut évidemment que la lumière soit faite, tout simplement. Mais c'est difficile de porter des jugements sans savoir exactement ce qu'il en est réellement. Parce que je crois savoir, pour avoir lu l'article, qu'il avait démenti toutes ces allégations. Donc évidemment, il faut que la lumière soit faite.
Philippe Doucet, vous avez appris également, vous avez vu cet article de Mediapart?
Oui, je trouve que c'est un article qui est lourd, quoi. Parce que les faits, c'est un article très approfondi de la rédaction de Mediapart.
Avec des témoignages.
Avec beaucoup de témoignages, avec deux femmes qui témoignent.
Des membres
avec,
des Républicains également.
Mais deux témoignages très
détaillés,
intimes, très détaillés, ouais. Qui vont très loin. Donc, et puis, effectivement, avec beaucoup de recoupements chez un certain nombre de membres des Républicains, sur d'autres élus et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre comme ça sur le côté. Et puis, je pense qu'il faut être à l'écoute de la parole des femmes aujourd'hui, parce que pendant trop longtemps, on a mis tout ça sous le tapis, dans un tiroir, fermé à double clé, quoi. Donc,
mais est-ce qu'on n'a pas mis ça, j'allais dire, je reprends vos mots, sous le tapis ou dans un tiroir, alors qu'effectivement ce gouvernement vient de se former, on a pris du temps pour la formation de ce gouvernement. Juste pour votre information, à l'instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et son collègue de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en déplacement, n'ont pas souhaité, alors qu'ils étaient assaillis par les caméras et les micros, commenter cette information, alors qu'Elisabeth Borne a dit que si de nouvelles plaintes venaient, si la justice venait à être saisie, eh bien, elle prendrait toutes les responsabilités. C'est ce que dit le Premier ministre. Est-ce que ça n'a pas été, j'allais dire, mis un peu sous le tapis, un peu vite?
J'ai l'impression, parce que c'est vrai que beaucoup reprochaient à ce gouvernement de prendre beaucoup de temps pour être composé. Alors on nous a dit, mais oui, mais il y a les équilibres politiques, il y a aussi les vérifications qui doivent être faites auprès de la Haute Autorité. Comment se fait-il que tous les candidats pour devenir ministre ont été passés au crible et que du point de vue de la morale, rien n'a été fait? C'est quand même étonnant que la Première ministre découvre, les ministres découvrent et disent que ils ont lu, comme nous tous, l'article de Mediapart. Donc peut-être de ce point de vue-là, en effet, il y a eu un manquement, ouais, assez grave.
Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, assure n'avoir rien reçu. Je lis l'article de Mediapart. Il a, après les questions de Mediapart, porté ses faits à la connaissance du procureur, conseille à la victime de porter plainte immédiatement. De son côté, Stanislas Guérini, délégué général d'En Marche, vient aussi d'être nommé ministre. Il fait savoir qu'il n'avait pas relevé sa boîte mail et assure donc avoir découvert le mail de signalement samedi matin à la suite des questions de Mediapart.
C'est quand même surprenant parce que respectivement, ils disent tous qu'ils n'ont pas reçu les mails alors que l'Observatoire a fait son travail d'alerter le gouvernement.
Il y a deux choses. Un, je pense que sur la question de la vérification pour les ministres, ça concernait jusqu'à présent beaucoup les situations fiscales, sociales, toutes ces situations-là. Je pense que jusqu'à présent, dans le scan des ministres, il n'y avait pas jusqu'à présent...
Oui, mais il y avait les mails. Les mails ont été alertés. C'est ça dont je parle, pardonnez-moi.
Sur la situation, comment dire, en termes de mœurs, même si le mot est peut-être pas le plus adapté. Par ailleurs, quand même, jusqu'à il y a 8 jours, 6 jours, 5 jours, Damien Abad était président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, quoi. Donc, l'antériorité de cette situation, j'ai lu, je crois, une interview de M. Aurélien Pradier.
Parle dans l'article de Mediapart.
Parle dans l'article de Mediapart, effectivement, et qui dit, bon, il y avait quand même...
Il s'est expliqué avec lui dans un couloir.
Voilà, ouais. Bon, il y avait un historique par rapport à ça. Ouais. Bon, donc, moi, je pense que avec le phénomène MeToo, il y a une parole qui s'est libérée. il n'y aura pas de marche arrière et c'est tant mieux. Et ça veut dire aussi que, en règle générale, mais ça vaut pour les ministres, mais je pense que ça vaudra aussi demain pour les entreprises, ce type de comportement, s'il était confirmé, sont devenus, et c'est très bien, totalement inacceptables. Et ça veut dire qu'il faut que, y compris chaque organisation politique, le fasse.
Aurélien Pradier, secrétaire général DLR, assure avoir coincé, entre guillemets, Damien Abad en novembre 2020 dans les couloirs de l'Assemblée nationale en lui disant qu'il entendait parler de comportements inappropriés qu'il aurait eu avec des collaboratrices. Il n'était pas du tout surpris. Il s'est agacé en me disant qu'il en avait marre d'entendre parler de cela. Donc, je n'étais pas le premier à le faire. Il m'a dit que ce n'était pas vrai, qu'il s'était excusé. Je lui ai dit, est-ce que ce n'est pas vrai ou est-ce que tu t'es excusé parce que ce n'est pas la même chose? Et la discussion s'est arrêtée là. Ce que dit Philippe Doucet, Agnès Evren, oui, il est aujourd'hui ministre des Solidarités, mais il a quand même eu des grands postes précédemment aux Républicains.
La preuve, c'est qu'il était jusqu'à la veille du dépôt des candidatures président du groupe. Voyez,
ça ne fait pas longtemps, ça.
Ça ne fait pas longtemps, et c'est vrai que les députés, d'ailleurs, se sont sentis trahis lorsque, dès le lendemain de la défaite, et à 3 semaines des législatives quand même, rejoindre le camp d'en face, c'est quand même en termes de vertu, de loyauté, de sincérité, assez...
Là, on parle d'un autre sujet.
Assez difficile. Oui, mais ce que je veux dire, parce qu'on parlait de la présidence du groupe, c'est quand même cohérent de dire que de ce point de vue-là, il a manqué de loyauté vis-à-vis des députés qui lui ont fait confiance pendant 3 ans. Quand
là, on parle
premièrement. Deuxièmement, Aurélien Pradier...
Ouais.
Non, mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement.
Je vous laisse.
Puisque vous rappeliez ses fonctions, donc j'explique.
Ouais.
Et deuxièmement, Aurélien Pradier, justement, a eu, comment dire, l'honnêteté de lui dire qu'il était au courant de cette rumeur qui circulait visiblement. Mais est-ce qu'un groupe politique a les moyens juridiques de mener une enquête? Ça, je ne pense pas. En revanche, la réponse était très claire de Damien Abad. Il avait l'air de dire que c'était faux et qu'il démentait ces accusations. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous? Moi, ce que je regrette, c'est qu'en effet, ce gouvernement qui a été alerté par l'Observatoire n'ait pas essayé d'approfondir justement cette alerte qui avait été faite auprès du gouvernement qui veut toujours laver plus blanc que le blanc.
Philippe Doucet.
Alors, le Parti Socialiste est en rien exemplaire par rapport à tout ça, mais comme on a eu des problèmes au sein du mouvement des jeunes socialistes au dernier congrès, on a décidé unanimement de mettre en place une commission interne d'instance d'appel de contrôle interne, comme vous pouvez avoir dans une entreprise, dans une association, un organisme interne la parole des femmes puisse être écoutée. Et je pense qu'aujourd'hui, toute organisation humaine, et un groupe politique à l'Assemblée nationale en fait partie, doit avoir ce type d'instance. Parce qu'autrement, vous voyez, ça, on en parle dans les couloirs, ça se sait, il y a une espèce de rumeur.
La commission a la possibilité de mener une enquête
Obligatoirement la commission de mener une enquête, mais en attendant, c'est un lieu de prise de parole,
De recoupement d'informations,
et où après la direction politique d'une organisation, en l'occurrence la mienne pour ce qu'on vient d'évoquer, eh bien, peut elle-même décider soit de convoquer la personne, soit d'interpeller directement la justice pour qu'elle fasse son travail. Parce que nous, on a eu ça dans le cas de, vous voyez, pour bien balayer devant notre porte tout à chacun, on a eu ça, le problème, moi j'ai découvert ça, je crois que c'est un article dans Libération sur ce qui se passait au mouvement des jeunes socialistes. Voilà, donc des comportements qui sont inacceptables. Je pense qu'aujourd'hui, chaque organisation doit s'équiper, si je puis dire, de ce type d'institution.
Restons-en là, en tout cas, ce soir, pour l'affaire Damien Abad, dont on entendra parler, dont on parlera ici, quand il y aura de nouvelles informations sur ce sujet dans les jours prochains. Ce gouvernement vient d'être formé, et le premier le premier projet de loi, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous avez vu cette chose? Est-ce que c'est alerte, il y a les élections législatives qui arrivent et il faut qu'on fasse vite un projet qui concerne la majorité des gens avant même le grand trend de ce gouvernement, si on le comprend bien, c'est-à-dire la question écologique avant tout, parce qu'il y a des objectifs mondiaux d'ici 2050 et avant 2050, d'ici 2035. Est-ce que c'est un projet entre guillemets à la va-vite ou est-ce que c'est un projet concret pour les Français, Agnès Evren?
Ah non, c'est pas un projet à la va-vite. Pour le coup, ça fait partie, à mes yeux, des angles morts du précédent quinquennat. Et que
Donc c'est une session de rattrapage ?
Le pouvoir d'achat est la priorité des priorités. Et donc, évidemment, nous, on va porter dans cette campagne pour les législatives les grandes thématiques de la droite, que sont le mérite, le travail, l'école, la maîtrise des comptes publics. Et évidemment, le pouvoir d'achat en fait partie. Et nous sommes force de proposition. Nous espérons très clairement, et d'ailleurs, c'est les mesures que nous avions proposées dans le cadre de ce projet pour la campagne, c'est de ramener le prix à la pompe à 1,50 € en baissant les taxes sur l'énergie, la TICPE et la TVA, en défiscalisant les heures supplémentaires. Par exemple. Il y a beaucoup de mesures que nous avons proposées. J'ose espérer, c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir un groupe indépendant à l'Assemblée nationale pour continuer d'être un aiguillon vis-à-vis de ce gouvernement. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas tant l'avenir de la droite qui se joue, c'est aussi l'avenir même du débat démocratique. Parce que si on se retrouve dans une polarisation avec d'un côté uniquement les progressistes, on va dire le gouvernement d'Emmanuel Macron, et d'un autre les populistes d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, alors ça veut dire que la droite républicaine disparaît du paysage politique et que demain, si on n'aime pas Macron, eh bien vous n'aurez le choix qu'entre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que
Si les électeurs n'ont pas choisi la droite républicaine, c'est que devait avoir une raison.
Bien sûr. Mais vous savez, quand on a fait 4,5, évidemment, on a le devoir d'avoir une lucidité et se dire qu'aujourd'hui, on n'imprime pas, on n'est pas compris par les Français, qu'on a sans doute un problème de ligne idéologique. Et c'est évident qu'après les élections législatives, on va tout refonder du sol au plafond. Mais moi, je reste absolument persuadée, et je le dis dans l'intérêt du débat démocratique, que si on se retrouve encore une fois dans un face-à-face entre d'un côté le progressisme et le nationalisme, entre guillemets, les populistes, alors c'est dangereux pour la démocratie.
Philippe Doucet.
Bien. Alors peut-être déjà,
pour le PS,
oui, si je puis dire. Bon.
Vous vous reprenez.
non, mais
le
parce
PS
que
existe encore à travers Philippe Doucet.
Oui, oui.
Vous préférez que je vous dise que vous êtes dans NUP ?
Non, le PS me va très bien. Déjà, ce que je voulais rappeler, peut-être, c'est que déjà, l'histoire d'Amir Abad, je ne sais pas comment il va survivre. Hein. Donc je pense déjà qu'au-delà des aspects juridiques, je pense que la dynamique aujourd'hui sociétale par rapport à ce type de phénomène, je ne vois pas comment un ministre y tient longtemps face à ce type de vent debout. Donc ça, je pense qu'il y a déjà une première crise ministérielle qui va arriver, à mon avis, très vite. Deuxième aspect, sur le pouvoir d'achat. Effectivement, ça a été, entre les propositions d'à peu près tous les candidats, le pouvoir
le
d'achat...
Sujet numéro un.
Et Emmanuel Macron, avant d'être sur l'écologie 2050, il a juste un sujet, c'est de réussir à gagner les élections législatives. Et c'est pas fait. Et donc, comme c'est pas fait, il se dit, faut que je cours partout.
Il y a qu'un faucon.
Il faut je colmater les trous dans le dispositif pour être dedans. Il a un enjeu sur les élections législatives. Et en plus, ce qui vient de se passer ici, plus d'autres candidatures un peu particulières, je crois que M. Perra, enfin, il y a un certain nombre de candidats de La République En Marche qui ont quand même quelques pédigrés un peu particuliers, fait que, vous voyez, Elisabeth Borne, aujourd'hui, dans sa campagne, elle est interpellée sur la question d'Amir Abad. Là, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice sont interpellés sur cette question-là. Et donc, effectivement, sur la question du pouvoir d'achat, ils répondent pas. C'est donc bien qu'ils sont quand même bien coincés dans l'angle. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à haut niveau, l'arbitrage n'a pas été fait s'il lâchait Damien Hamad tout de suite ou pas. C'est quand même ça le sujet. Et puis du coup, ça augure pas bien pour la campagne initiative. Et deuxièmement, sur la question du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron, vu l'évolution des prix, pas simplement de l'essence, mais du gaz, enfin tous les produits alimentaires et tout, s'il n'est pas dans l'action autour de ça, je pense qu'il peut perdre beaucoup de points dans cette campagne législative, qui est quand même un peu atone, qui est quand même un peu particulière, une espèce de faux plat un peu particulier pour beaucoup d'organisations politiques, à commencer par La République En Marche.
Il faut dire aussi que le gouvernement a beaucoup déçu, parce qu'on nous promettait une révolution, et puis finalement, la montagne a accouché d'une souris, on prend les mêmes et on recommence.
Ça vous a choqué, ça ?
Moi, oui, parce qu'on attendait...
Qu'est-ce que vous prenez alors, l'argument qui dit autant garder des gens compétents qui savaient faire le boulot ?
Oui, mais alors dans ces cas-là, on ne dit pas que ça va être...
Ça va faire le job.
Mais vous savez, on est souvent dans la communication. Souvent, la communication se substitue à l'action. Et on a le sentiment, en écoutant Emmanuel Macron, qu'il allait tout changer du sol au plafond, un nouveau mandat, des nouveaux ministres, un nouveau gouvernement, une femme première ministre. Et donc, évidemment, on est resté un peu sur notre faim parce qu'on a l'impression que finalement, on a exactement les mêmes ministres. À la limite, s'ils sont compétents, tant mieux. Mais nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est quelle politique ils vont mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur les retraites? Est-ce qu'enfin les retraites vont être indexées sur l'inflation? Est-ce qu'enfin on va refuser le principe d'avoir des retraites, des pensions qui sont inférieures au SMIC, par exemple? Qu'est-ce qu'on va faire sur les questions régaliennes? Pierre Lissier le disait tout à l'heure, c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc nous, on a des propositions également sur ce sujet-là, avec le zéro impunité, la possibilité d'exécuter 100% des peines.
Mais attendez, je pense pas
que les candidats et les républicains vont beaucoup survivre dans cette séquence-là, parce que vous-même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et je vous ai entendu sur une autre antenne l'évoquer aussi. Le fond de l'affaire, c'est que la bataille, elle se joue à trois. La réalité, elle se joue entre la NUP, En Marche et Marine Le Pen. Le reste, peut-être même que le 16e arrondissement, vous n'allez peut-être même pas réussir à le sauver.
Alors là, imaginez, on a un excellent candidat, la personne de Francis Pinet. Ouais, on a un excellent candidat qui est
pas sûr qu'il va gagner. Donc si vous perdez le 16e arrondissement, c'est la fin des ricos quand même pour la droite.
Vous oubliez quelque chose, c'est que nous, à droite, nous sommes la première force territoriale. Nous avons des députés sortants extrêmement ancrés et enracinés dans leur territoire, et je peux vous assurer que j'en ai beaucoup au téléphone, qui ont un bilan de députés sortants. Et la politique, c'est aussi à un moment donné une implantation, une crédibilité, le sérieux des candidatures.
Je partage ça en termes de philosophie politique. Le fait est que aujourd'hui, les Français ont parfaitement compris que c'est de savoir si vous voulez donner une majorité au président de la République ou si vous ne voulez pas leur donner une majorité.
Oui, mais pas dans tous les territoires.
Je crois en vertu de l'ancrage profondément. Je ne suis pas sûr d'être toujours suivi par les électrices et les électeurs.
Dans les métropoles, peut-être, mais je vous assure que dans les communes rurales, on a d'excellents candidats qui ont fait le job, qui sont face à des inconnus.
Je ne savais pas que Paris 16e était une commune rurale.
Non, mais Francis Pirel,
avec votre 16e bashing, là, Francis, vous avez un polo Lacoste, écoutez, vous l'avez acheté dans le 16e.
Ce qui m'amuse, je voudrais quand même terminer là-dessus.
En banlieue, Lacoste fait un carton.
Monsieur
de Villeneuve, vous devriez le savoir. Lacoste fait un carton en banlieue.
Monsieur Doucet nous donne des leçons à la droite.
Je ne donne aucune leçon, je ne donne jamais de leçons.
Il me répond en pendant, il a raison.
Je ne donne jamais de leçons. De se raccrocher à l'extrême gauche pour continuer d'exister. Et quand on voit l'affaire du Burkini, honnêtement, pour moi, c'est un scandale absolu. C'est une régression. Comment est-ce que la gauche peut accepter d'avoir perdu à ce point-là sa boussole républicaine
pour accepter l'asservissement par M. Piolle,
Il n'est pas chez moi. Donc c'est facile de stigmatiser la droite.
On ne va pas parler d'Éric Piolle parce que vous n'êtes pas concerné. En effet, vous n'êtes pas dans la NUP. Les ministres, on parlait justement des ministres et plutôt des candidats qui allaient gagner ou pas les législatives. On a une information qui apparemment provient de l'Élysée, qui n'a pas beaucoup fuité, juste dans quelques médias. Les ministres qui auront perdu aux législatives devront démissionner.
Bah, c'est une vieille tradition.
Philippe Doucet.
C'est François Mitterrand, il y avait cet engagement depuis très longtemps. François Mitterrand l'a toujours appliqué. François Hollande ne l'a pas fait pour Najat Vallaud-Belkacem, puisqu'elle n'a pas été candidate en 2012. Mais quand vous êtes nommé ministre, que vous présentez une élection, que vous ne gagnez pas, vous partez avec un handicap en termes de légitimité. Pour ça qu'un certain nombre de ministres ne vont pas aux élections législatives, parce que ça leur évite de prendre le risque. Mais à une époque, tout ministre devait être passé par le suffrage universel.
C'est un blanc-seing nécessaire.
C'est pas un blanc-seing, mais c'est l'onction du peuple.
Les ministres les plus importants ont une implantation locale. On a trop fait d'ailleurs le procès à certains ministres d'être totalement hors sol et déconnectés de la réalité du terrain, qu'aujourd'hui, on a besoin, et c'est bien normal, d'avoir des ministres qui ont une légitimité électorale. Et pour avoir un poids politique, aujourd'hui, évidemment, ça renforce quand on gagne.
Donc c'est une bonne information.
Très bien, et ça paraît tout à fait logique.
D'ailleurs, pensez que Mme Elisabeth Borne se candidate, alors qu'à jusqu'à présent, elle n'a jamais été élue dans le Calvados. Donc,
Il y a un ministre dont on parle beaucoup, c'est Pape Diaye. C'est une fausse, c'est une bonne ou c'est une mauvaise polémique?
Alors moi, je ne vais pas faire de procès d'intention. Moi, je juge les ministres sur leur position politique et leur action politique. En revanche, en effet, il a eu des prises de position qui sont un peu surprenantes, notamment avec cette culture woke. Donc ça peut surprendre, et c'est pour ça que moi, ce que je disais tout à l'heure sur la gauche, ce qui m'inquiète, c'est que cette gauche, aujourd'hui, on a une gauche qui est coupée en deux. Une gauche qui, évidemment, comme vous, Monsieur Doucet, reste attachée aux valeurs universelles, et une gauche qui s'est laissée totalement absorber, finalement, par l'extrême gauche, et qui dérive de plus en plus vers le racialisme et l'indigénisme et le communautarisme. Je dis, encore une fois, je ne veux pas lui faire de procès d'attention, j'attends son action politique. Ce serait trop facile de juger alors qu'il n'a encore rien fait.
Il s'était opposé au bicentenaire de Napoléon. par exemple.
Voilà, donc je trouve que c'est pour ça que je trouve que ce gouvernement, au-delà du fait que la montagne a accouché d'une souris, il n'y a pas un message très lisible et très fort qui est lu dans cette incarnation.
Pour être honnête, je trouve que Papendaï, c'est la seule bonne nouvelle de ce gouvernement. Parce que...
Parce que c'est quelqu'un de compétent ? Parce que c'est un historien ?
Je pense que c'est un historien. Oui. Son histoire sur les Noirs aux États-Unis ou sur la condition des Noirs en France, il y a quand même... est tout à fait intéressant. Et derrière, c'est aussi, même si je suis un universaliste farouche, un républicain universaliste farouche, il faut aussi entendre les questions que pose le traitement d'un certain nombre de minorités. Il avait évoqué les violences policières il y a un an, je crois, sur la France Inter. Donc je pense qu'il ne faut pas... L'universalisme ne doit pas empêcher d'examiner la manière dont nous avons traité, nous, l'esclavage, etc.
La France aux États-Unis, moi, ça m'inquiète un peu parce qu'on n'a pas du tout la même histoire ségrégationniste.
Agnès Evren, merci beaucoup à Philippe Doucet, voilà, pour ce débat. On se retrouve dans un instant pour le journal de 19h et ensuite on parlera de la sécheresse en France. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.